Pauline Cucciano, Titania 4.0, chapitre 18, retour à la fontaine. Jean était assis sur le rebord de la fontaine de Trévi et délaissa un instant son Hervé pour admirer derrière lui les statues de la façade du palais Pauli. Elles paraissaient avoir vaincu leur gang de pierres pour s'avancer dans la fontaine. Les formes géométriques de la façade s'écroulaient en une rocaille irrégulière, et, à l'avant, des deux statues sagement nichées derrière lui, Neptune semblait lui aussi être sorti du rang. La façade de pierre achevait sa libération dans l'eau mouvante de la fontaine. C'était l'allégorie d'une métamorphose que Jean ne pouvait s'empêcher de contempler, encore et encore. Ici aussi, comme à Paris, Lyde s'était donné beaucoup de mal. Des esthétibos d'une grâce infinie en forme de créature marine s'échappaient sans cesse de l'eau pour y replonger au bout de quelques mètres d'un vol lent. On voyait des hippocampes, des poissons volants, des calamars noirs dont le dos étoilé se drapait comme une moire. Des nuées d'oiseaux mécaniques les poursuivaient avant de se jucher au sommet du palais. Les cheveux et la barbe de Neptune, ainsi que la crinière des chevaux, étaient agités d'un mouvement ondulant par la magie des nanokaléidoscopes qui reconfiguraient sans cesse leur matière. Enfin, le fond de la fontaine, où les anciens avaient eu l'habitude de jeter des pièces de monnaie, était équipé d'un hologramme qui projetait un monde sous-marin fait de coraux et d'anémones dansantes, traversé parfois par les silhouettes furtives de tritons. Jean suivit des yeux toutes ces formes à la fois puissantes et gracieuses, puis tourna la tête de l'autre côté. La place, malgré les travaux qu'il avait élargis, demeurait trop étroite pour la foule qui s'y pressait, et Jean se mit à dévisager, comme il le faisait depuis plusieurs jours, toutes les jeunes femmes qui passaient. Les brunes, les blondes, les noires, les blanches, les jeunes femmes tristes, dédaigneuses, amoureuses, contemplatives, impérieuses. Toutes passaient au crible de son regard. Il avait osé en aborder quelques-unes au début. « Titania ? » avait-il hasardé. Devant les yeux glacés qu'on lui lançait, les moues méfiantes, il avait renoncé à prononcer ce nom. Il se contentait parfois d'échanger un long regard avec une inconnue, y cherchant l'expression triste et profonde de Titania. Mais cette expression était si indissociable de ses yeux violets qu'il ignorait s'il serait un jour capable de la retrouver ailleurs. Le plus long quiproquo n'avait duré qu'une ou deux minutes. « Vous êtes celle que j'attends ?» avait-il demandé à une jeune fille très harte, qui arborait une plaque de métal au cou et des cheveux qui ressemblaient à des plumes de paon. « Peut-être, » avait répondu la jeune femme d'un air mutin. « Comment puis-je en être sûre ?» avait-il ajouté. « Vous ne pouvez pas, » avait-elle tranché. « Il vous faut prendre le pari. » « Si vous étiez une reine, vous seriez une reine de quoi ? » demanda-t-il. « La reine de Rome, bien sûr !» avait lancé la jeune fille, en éclatant d'un rire qu'il trouva soudain, affreusement banal. « Excusez-moi, je vous ai prise pour une autre, » s'était-il excusé. Suite à cette mésaventure, il avait préféré attendre. Après tout, n'était-ce pas elle qu'il avait abordée la première fois ? Il devait écrire, écrire sur son mur, avec son Hervé. C'est à travers le réseau qu'elle le retrouverait. Et c'est ce qu'il s'efforçait de faire depuis 3 jours, presque toujours à la même place sur le rebord de la fontaine. Aujourd'hui, la solitude commençait à lui peser, et après avoir enfilé le casque d'immersion virtuelle, il activa la rémanence de sa mère. « Bonjour, Jean. » La voix familière, qu'il appelait par son ancien nom, lui fit du bien. « Bonjour, maman. Connais-tu la fontaine de Trévi ? » ?»« Non, je n'ai jamais eu l'occasion de voyager en Italie. »« C'est un pays envoûtant, » dit-il. Il réfléchit un instant à ce dont il avait envie de parler avec elle. « Peux-tu me raconter un souvenir de mon enfance ?» C'était une question qu'il avait posée par hasard quelques jours auparavant. La réponse de la rémanence l'avait tant émue que depuis il la posait presque à chaque fois. Sa mère, de son lointain inaccessible, lui en racontait toujours indifférent et il avait souvent les larmes aux yeux à l'évocation de ses jours enfuis. « As-tu une préférence pour un genre de souvenir ? Un où nous étions séparés et où nous nous sommes retrouvés ?» « Je me souviens d'un jour, » commença la rémanence, « tu n'étais pas bien grand, tu devais avoir 3 ou 4 ans. Ton père te prenait parfois pour la journée à cette époque, je ne sais pas si tu t'en souviens. »« Non, je n'ai aucun souvenir de lui. Il t'avait emmené quelque part, dans un endroit luxueux où tu rêvais d'aller, au Grand Palais ou au Palais des Caprices, je ne sais plus. Moi, je ne voulais pas aller là-bas, parce que ces choses-là me font peur, mais j'étais contente parce que je pensais te retrouver dans un état d'émerveillement avancé. Or ce fut tout le contraire. » À votre retour, tu étais sombre et mélancolique. Que s'était-il passé ? Je ne l'ai jamais su, mais quand je t'ai demandé si tu avais aimé ta journée, tu m'as regardé et tu as dit « Rien n'est jamais aussi bien que dans les rêves. » « Tu es déçu ? » t'ai-je demandé. Alors tu t'es mis à pleurer et tu m'as serré dans tes bras. Les gens, t'ai-je dit, les gens peuvent être aussi bien que dans les rêves. Tu t'en souviens ? Jean avait un sourire mélancolique sur le visage. Je me souviens de cette phrase, oui, mais je croyais que c'était un proverbe. La rémanence ne rebondit pas, et Jean l'éteignit, ému. Avait-il peur d'être déçu par le nouveau visage de Titania ? Ou la nouvelle Titania serait-elle aussi bien que dans son rêve ? Sans quitter le réseau, il se mit à écrire, espérant à chaque mot qu'une petite voix impertinente allait l'interrompre dans le monde réel. Que puis-je devenir dans ce monde immoral, qu'un vent glacé, changeant, agite au gré des modes, où la beauté repose en des lignes de code, où tout espoir respire mal ? Que puis-je être, bourreau abruti de plaisir, vautré dans le réseau comme une bête infâme, profiteur de misère, consommateur sans âme, destructeur de mon avenir ? HR sans feu ni lieu, louvoyant ou brutal, dissident sans espoir, futur mort sur commande ? Y a-t-il un sens secret dans cette Samarcande où puiser mon élan vital ? Je veux être amoureux, créateur, juste et libre, envers et contre tout me tenir à mon rêve, inventer un chemin sans boussole et sans trêve, où il puisse être beau de vivre. Jean n'était pas satisfait, parce que libre ne rimait pas tout à fait avec vivre. Il ôta son casque d'immersion virtuelle et fut presque surpris de se retrouver parmi la foule. « Vous mettez un temps infini à retomber sur terre », lui avait dit Titania le premier jour. Il balayait la foule du regard, presque machinalement, lorsqu'une silhouette encore lointaine mit ses sens en alerte. Elle avait la taille, la démarche, le port altier de Titania. Et ainsi qu'il le remarqua avec tendresse, la foule s'écartait très légèrement sur son passage. Elle n'était plus nimbée de nacre et d'argent, mais de brun et de vert, comme un esprit de la forêt. Ses cheveux châtains ondulaient légèrement sur ses épaules. Ses lèvres rouges, comme des baies sauvages, éclataient de couleurs. De larges bijoux mats, aux motifs floraux, pendaient à ses oreilles et à son cou, et elle était juchée sur d'improbables bottes qui rappelaient vaguement un costume de cavalière. C'était elle, ce ne pouvait être qu'elle. Il se dégageait de sa personne cette unité dont elle avait toujours été si fière, ce style qui, comme un air de famille, était le lien subtil et stable de ses identités perdues. Il regarda mieux son visage, qui lui parut alors bizarrement étranger. C'était une jolie jeune femme, aux traits un peu plus communs, un peu moins finement dessinés, un peu moins symétriques que ceux de Titania. Jean crut discerner un tatouage ou un grain de beauté juste sous l'œil droit. Il enfila à nouveau son casque d'immersion virtuelle et reprit la composition de son poème. En tremblant un peu, il effaça le mot « libre », le remplaça par « ivre » et se relut. Je veux être amoureux, créateur, juste et ivre, envers et contre tout me tenir à mon rêve, inventer un chemin sans boussole et sans trêve, où il puisse être beau de vivre. Moi, je préfère libre, dit la voix, absolument inchangée de Titania. Il ôta lentement son casque et garda les yeux fermés. Je te laisse le temps de regarder mon visage, dit-il. Comment puis-je regarder ton visage si tu ne me montres pas tes yeux ? Une main, dont il reconnut avec émotion la forme et le mouvement, vint effleurer la sienne. Et il ouvrit les yeux. Elle avait l'air grave, les sourcils un peu froncés, et Jean retrouvait là l'une de ses expressions coutumières. Son cœur battait à tout rompre. Il découvrait pour la première fois ce visage inconnu, et pourtant, il connaissait ce regard, quand bien même il éclairait aujourd'hui d'autres yeux. Des yeux couleur d'écorce et de fougère, où des nervures vertes illuminaient l'iris. Il connaissait cette moue plissant d'autres lèvres plus charnues. Au bout d'un court moment, Titania changea d'expression, et Jean, à cet instant précis, tomba amoureux de son nouveau visage. Elle sourit, d'un sourire large que n'avait jamais dessiné son ancienne bouche de poupée, et une fossette se creusa au coin de sa joue. Son teint très pâle se colora légèrement, et ses narines frémirent. Toute la beauté plastique qui avait fait de Titania une statue de déesse s'était enfuie. À sa place, Jean voyait éclore un visage merveilleusement vivant, expressif et touchant. « Tania Folk, ravie de faire votre connaissance, » dit-elle. Gianni Strada, prononça-t-il avec un accent italien exagéré. Je peux vous embrasser, Gianni Strada. C'est un peu direct, fit-il observer en souriant. Je n'ai toujours pas de temps à perdre avec ce genre de convenance. Ils s'enlacèrent, et dans l'obscurité de leurs baisers, leurs visages présents et passés se confondirent. Aux abords de la fontaine, une HR dans une longue robe en haillons, pieds nus, amusait la galerie en paradant avec un chaton sur la tête. On lui donnait des nutriments et de menus objets. « Tu crois que la misère est moins pénible à Rome ?» demanda Titania. « La misère est la même partout, et partout aussi amère, dit Jean avec gravité. Nous ne sauverons pas le monde, dit Titania. Non, mais nous pouvons peut-être le rendre un peu moins laid, et contribuer à éveiller les consciences par nos enquêtes. Ils se turent un moment, Titania, fascinée par la fontaine, avait les yeux qui brillaient. « Je me sens si légère, murmura-t-elle. Pour la première fois, il me semble que je peux vivre enfin. Jean, est-ce que j'ai le droit d'être heureuse maintenant ?» Jean, avec son beau visage basané, marqua un silence grave. Titania avait-elle le droit d'être heureuse, alors qu'elle avait tué sa mère ? Il hésita à lui dire la vérité, mais son cœur parla avant sa raison. « Oui, lui dit-il, bien sûr que tu as le droit d'être heureuse, tu as même le devoir de l'être. » Elle sourit, et sa fossette charmante se creusa à nouveau. « Tu es un peu plus vieux, non ?»« J'ai pris de la bouteille, confirma Jean. 25 ans d'âge apparent, je suis presque un vieux sage. »« Quand commençons-nous notre nouveau travail ?»« Le 13. »« Le 13 ? Cela nous laisse 10 jours ?»« 10 jours. 10 jours de solitude et d'oisiveté dans cette Rome lumineuse et baroque. Histoire et modernité, réalité et songe, nature et artifice s'affrontaient ici dans un corps à corps étrange dont jaillissait parfois l'éclair d'une suprême beauté. » Il lui dirait la vérité, un jour. Il lui rendrait sa part d'ombre, qu'il gardait pour le moment enfermée en lui. Mais pas maintenant, pas alors qu'elle se sentait renaître, cela aurait été trop cruel. Il la regarda longuement, tandis qu'elle s'émerveillait de suivre les évolutions des esthétibos, et il songea qu'ils auraient bien le temps de souffrir. Aujourd'hui, maintenant, ils étaient ensemble, ils étaient hors de danger, ils étaient amoureux, et la cité éternelle, avec ses vestiges antiques, ses hologrammes géants et ses statues animées déroulaient à leurs pieds son panorama fabuleux.